Le fait d'être survivante fait que j'aime la vie. Et c'est pour ça que je n'ai jamais même envisagé de me suicider ou que ce soit. Jusqu'à mon dernier jour, j'aimerais cette vie. Jusqu'à mon dernier jour, j'aimerais cette vie.
RZEN.
Même la vie.
Radio.
Bonjour et bonjour, mais il est 13h.
RZEN Radio.
RZEN Radio.
Le flash engagé et positif.
Bonjour à tous, nous sommes comme toujours journée de défense des travailleurs et forcément des manifestations. Vu aujourd'hui, une participation de 100 à 150 000 personnes est attendue dans toute la France, beaucoup moins que les 800 000 de l'an dernier. À Paris, le cortège doit s'avancer à 14h de la place de la République vers la place de la Nation. La CFDT défilera aux côtés de la CGT, FSU et Solidaires. Et qui dit changement du début du mois, à retenir notamment l'élargissement des accès à MaPrimeRénov'. Le diagnostic énergétique n'est plus obligatoire et puis les logements F et G peuvent bénéficier de cette aide à la rénovation énergétique. Dans un tout autre registre, notez que vous avez 2 heures pour vous inscrire en ligne sur les listes électorales avant les élections européennes. Ça se termine. Sinon, vous avez encore jusqu'à vendredi. Démarche directement. Peut-être vous, le jackpot de 166 millions d'euros de l'euro-million a été remporté en France hier soir. Une somme énorme, mais qui n'est pourtant pas le record. En 2021, une jeune Polynésienne qui jouait portait un chèque de 220 millions d'euros. Le regagnant hier a joué les numéros 22, 24, retraité les 2 étoiles 5 et 1. Faire briller français, c'est l'objectif du Paris Saint-Germain. Les demi-finales allées de la Ligue des Champions sur la pelouse du Borussia Dortmund. Les Parisiens qui sont favoris de ce rendez-vous. Coup d'envoi. Puis on termine par votre dossier solution. Ce n'est jamais facile de trouver une personne pour garder son enfant porteur de handicap. Eh bien, avez-vous déjà entendu parler de une plateforme lancée en 2008 à Marseille et dans le département des Bouches-du-Rhône? C'est une petite révolution pour les parents qui ont enfants porteurs de handicap. Toutes les informations des héros à écouter sur internet RZEN. Belle journée à l'écoute d'RZEN Radio.
Vous venez d'écouter Engagé et positif d'RZEN Radio. Une autre façon de voir la vie.
RZEN Radio.
Long format. Pas de problème, que des solutions. Le podcast qui explore, médicalement, les initiatives innovantes.
Explore et qui se questionne sur la pertinence de celle-ci. On met un coup de projecteur aujourd'hui sur notre République. Toutes les initiatives gouvernementales sont-elles positives? Peut-on aller plus loin? Vous l'avez probablement vu passer dans l'actualité. Dès la rentrée, les groupes de niveau ou groupes de besoins feront leur apparition au collège. Si cette décision est loin de faire l'unanimité sur le terrain, c'est qu'il y a peut-être d'autres leviers à activer pour soigner cette école publique. Alors on fait le point, on identifie des solutions concrètes dans ce nouvel épisode. Pour cela, Guillaume Prévost. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Vous êtes le délégué général de Vers le Haut, un think tank dédié à l'éducation. Ce qui revient sur le sujet globalement et dans l'actualité, c'est que la mise en place de ces groupes de niveau, elle demande beaucoup de souplesse, d'organisation, de moyens. Dans un monde idéal, pourquoi pas? Sauf qu'aujourd'hui, ça paraît presque impossible à mettre en place. C'est en tout cas pour ça que des enseignants ont fait grève, notamment du avril. Quel est votre sentiment sur le sujet?
Alors, mon sentiment, c'est un en matière éducative, le débat d'idées prend le pas sur la réalité des enfants, des enseignants, des parents. Et ça, c'est bien dommage, parce qu'on a un système éducatif qui fait face à des besoins immenses. Ces besoins n'ont cessé de croître tout au long du XXe siècle. Ils se révèlent encore plus au début de ce siècle, avec toutes les difficultés que l'on connaît. La hausse des besoins éducatifs particuliers, la hausse de la sensibilité que nous avons à la question du handicap, l'évolution des familles. On sait qu'aujourd'hui, un quart des enfants vivent dans des familles monoparentales, un cinquième des enfants vivent dans des familles sous-dotées. Donc, le besoin éducatif est immense, tout le monde en fait expérience tous les jours. Et pourtant, ce qui est un peu difficile, c'est que, quelque part, à chaque fois qu'on parle d'éducation, on parle de l'école. Et donc, parler d'école, c'est compliqué, c'est des processus, c'est une organisation administrative extrêmement lourde. C'est 1,2 million de personnel. Oui, il y a plus d'organisation de cette taille. Et donc, sans cesse, quand on parle d'éducation, au lieu de parler des enfants, au lieu de parler des enjeux éducatifs en ce qu'ils ont de profond et qui nous concernent, quelle que soit notre position dans la société, mais finalement, on se retrouve à parler du fonctionnement un peu cafin d'une administration que plus personne est bien sûr de comprendre. Alors, probablement qu'un des leviers éducatifs, c'est restituer à l'éducation, sa juste place. Et quand on parle de groupes de niveau, de groupes de besoins, de chocs de fait, on parle d'enfants qui dès le primaire, sont en difficulté de leurs apprentissages. On sait que ça concerne 30 à 70% des enfants, qu'en plus, cette part des enfants en difficulté, elle est directement liée à l'extraction familiale, c'est-à-dire au niveau de revenus de la famille, et qu'on donc on a une école qui, quelque part, ne fait que reproduire les inégalités de naissance des enfants. Alors, comment on traite ça? Comment on apporte des réponses éducatives pertinentes? C'est ça la question, au fond. Et ce qui est un peu dommage, c'est de voir ce débat-là, qui est un débat de fond, qui est un débat intéressant, qui est un débat d'humanité, qui est un débat de rapport à l'enfant, qui est un débat qui implique les enseignants, bien sûr, mais aussi tous les éducateurs qui sont autour de l'enfant. Ce débat, quelque part, il est rendu inaudible par le point d'indice de l'organisation des emplois du temps, l'attuation du ministre.
On se dégage du problème de fond, en fait.
Exactement, exactement. Et c'est ça qui est un peu, c'est ça qui est un peu frustrant quand on s'implique, c'est que finalement, est-ce qu'on parle vraiment d'éducation? Ou est-ce qu'on parle de l'organisation complexe d'un service public dont plus personne ne comprend très bien ni la mission, ni les tenants, ni les aboutissants? Vous voyez, pour être un peu plus concret. Groupe de niveau, groupe de besoin. Tout le monde en fait l'expérience assez, de façon assez évidente. Plus les enfants grandissent, plus leurs besoins vont en divergent. Nous avons besoin, en qualité d'accès au savoir, de mieux accompagner chacun des enfants dans un parcours éducatif qui, en plus, repose de poser. Vous orientez, vous posez des options, vous choisissez une filière, vous choisissez un métier, vous inscrivez dans un parcours professionnel, technologique, 50% de génération à l'enseignement supérieur. Donc, vous voyez que notre système éducatif, de plus en plus, il s'appuie sur la capacité de la personne à faire des choix. Donc on voit bien que si les enfants qui ne sont pas en mesure de faire des choix éclairés, ils ne sont pas capables de jouer ce rôle qu'on leur demande de jouer. Donc il y a un vrai besoin. Ce besoin, il est d'autant plus fort que toutes les enquêtes internationales montrent que sur ce plan humain, sur le plan de l'accompagnement des enfants, le système français est très en retrait. L'enquête PISA qui a été dévoilée en décembre dernier s'attache à l'ensemble des pays de l'OCDE. Tous les pays chutent très brusquement en mathématiques et en sciences. Il y a une dizaine de pays qui s'en sortent tenir ces difficultés. Qu'est-ce qui les caractérise? Ça mène l'OCDE à définir ce qu'il appelle la résilience éducative. Cette enquête, parce que ça va essayer de caractériser ce que c'est qu'un système pleinement éducatif au-delà de l'enseignement, c'est-à-dire un système capable d'accompagner les enfants. Et il y a trois leviers qui sont identifiés par l'enquête de l'OCDE. C'est le lien avec l'enseignant, la relation entre l'école et les parents, le bon usage numérique. Et bien sur ces trois, la France est dans les 10 pays les moins performants. Nous sommes très en retrait sur le lien entre l'enseignant et ses élèves, notamment dans le secondaire. Je crois avant-dernier des pays de l'OCDE sur le lien entre l'école et les parents. Et la France fait partie des 10% des pays où les élèves disent le plus souvent être perturbés tous les jours par leur téléphone portable. Donc vous voyez qu'au fond, le vrai sujet qui se pose à notre école, c'est pas celui de l'organisation, des savoirs, des groupes de niveau à venir, parce que c'est pas forcément une mauvaise décision en soi. Mais le vrai sujet, c'est celui de l'accompagnement éducatif des enfants, c'est-à-dire que l'école se donne les moyens d'aller appréhender l'enfant au-delà de l'élève. Et je trouve un peu regrettable que ce débat de fond, qui est un débat passionnant, dont tout le monde pourrait se saisir, soit escamoté par des questions de communication politique.